Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je suis heureux de vous retrouver. Tout d'abord, j'espère, pour ceux qui sanctifient le dimanche chez eux, que vous vous êtes mis dans les bonnes conditions. Soit vous êtes sortis pour prier dans une église ou dans une chapelle, soit vous avez fait un oratoire chez vous, soit vous vous êtes réunis à plusieurs. Enfin, dans tous les cas, faites attention à ce que la tenue extérieure et les conditions extérieures soient favorables à la sanctification du dimanche. Ne profitez évidemment pas du fait de ne pas avoir de messe pour négliger ce jour qui est tellement important. Nous devons honorer Dieu, non seulement dans notre cœur, mais également dans notre attitude extérieure. Et Don de Montléon, dans son petit traité de l'oraison, que j'ai mis sur mon site et dont je vous conseille très vivement la lecture, Don de Montléon dit que beaucoup d'oraisons, le fruit en est perdu parce que on se tient mal de façon trop négligée. Cette petite, et ça vaut également pour les enfants. Faites attention à les endimancher et à respecter les horaires et à créer les conditions. N'hésitez pas avec les enfants à lire l'épître et l'évangile du jour, la collecte, l'épître et l'évangile du jour, la veille, de manière à les préparer à la cérémonie du lendemain. Cela est valable que vous ayez la messe ou que vous ne l'ayez pas. Après cette petite introduction, entrons dans le vif du sujet. Notre Seigneur emmène ses fidèles, ses disciples, de l'autre côté de la mer de Tibériade. Il ne les emmène pas au désert, comme il le fit une autre fois pour la multiplication des pains. Malgré tout, il les fait sortir de chez eux. Il les emmène un peu loin, lui-même s'est mis un peu à l'écart, et les foules le suivent. Il est évident qu'il les met à l'épreuve, et d'ailleurs l'Évangile le dit, notre Seigneur va mettre à l'épreuve les apôtres auxquels il demande comment on va pouvoir nourrir toute cette foule alors qu'on n'a rien. Il faudrait faire attention, quand on parle de la multiplication des pains, on parle de l'Eucharistie, et avec un gros risque qui est celui de voir l'Eucharistie principalement comme une nourriture. Alors que, en réalité, notre Seigneur nous emmène au désert, il nous emmène à le suivre, il va falloir que nous le suivions jusque sur la croix, car tout chrétien est marqué du signe de la croix. Le jour du baptême, la première chose que le prêtre fait, c'est de marquer l'enfant du signe de la croix sur le front et sur son cœur. Sur le front, c'est-à-dire dans ses actions extérieures, ce qu'on porte et qui se voit de tout le monde. Dans le cœur, c'est ce qui est intérieur et plus intime. Donc nous sommes marqués du signe de la croix, nous allons suivre notre Seigneur et nous allons le suivre jusqu'au calvaire. Et la communion va nous donner des forces pour suivre notre Seigneur jusqu'au calvaire. Elle n'est pas une nourriture quelconque et elle n'est pas d'abord une nourriture. Elle est d'abord une union à notre Seigneur, à Jésus et à Jésus crucifié. Et c'est cette union qui va nous donner des forces. Les foules ont bien plus reçu en suivant Jésus-Christ que en recevant le pain multiplié. Et nous-mêmes, le but de notre vie est de nous unir à notre Seigneur dans la croix. Et alors, ne nous y trompons pas, Ne croyons pas, ça je vous l'ai déjà dit, mais il est bon de le répéter, ne croyons pas que la vie chrétienne sur terre puisse se passer sans difficulté et dans les joies, les plaisirs et en évitant toute souffrance. L'Église nous en avertit avec l'Épître. Nous sommes les frères d'Isaac et non pas d'Ismaël. Et l'Écriture sainte nous le dit bien. De même que à l'époque, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, de même maintenant. Alors que dit l'Écriture? Rejette la servante avec son fils, qui vivent selon la chair donc, et car ceux-ci n'auront pas part à l'héritage avec les fils de la femme libre. Alors nous ne sommes pas les fils de l'esclave, mais les fils de la femme libre. C'est une allégorie, bien entendu, mais cette allégorie a été voulue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a voulu que les choses se passent ainsi, de manière à nous faire la leçon, à nous rappeler quelles sont les conditions de notre vie chrétienne. Donc, il y a une lutte entre le monde et Dieu, entre les fils du monde, les fils de Dieu, entre ceux qui vivent dans l'esclavage et ceux qui vivent dans la liberté. Car ne nous y trompons pas, c'est nous qui sommes libres et eux qui sont esclaves, contrairement aux apparences. Ils n'ont que le mot de liberté à la bouche, ils ne parlent que de liberté, ils veulent la liberté, ils se croient libres. En réalité, ils ne sont pas libres. Ils ont échappé à la loi et à la loi de Dieu, et ils sont tombés sous l'esclavage de leur passion, d'une part, et par conséquent du démon. Nous qui, au contraire, apparaissons comme n'étant pas libres parce que nous obéissons à la loi de Dieu, parce que apparemment nous ne faisons pas ce que nous voulons, en réalité nous sommes vraiment libres parce que notre vie est pleine d'enthousiasme. Nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ comme les foules. Nous le suivons et par conséquent nous allons choisir tous les bons moyens pour être plus proches de lui. Et cela est la vraie liberté. La liberté ne consiste pas à choisir entre le bien et le mal. Ça, ce n'est pas la liberté. D'ailleurs, c'est presque impossible de choisir entre le bien et le mal. On choisit entre un vrai bien ou un faux bien qu'on se donne pour un bien et sans vouloir voir qu'il détruit. La liberté ne consiste pas à choisir entre le bien et le mal. La liberté consiste à choisir le meilleur moyen pour faire le bien, c'est-à-dire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est évident que la liberté nous fait fuir le monde et qu'il devrait y avoir aujourd'hui, vu les circonstances du monde, les circonstances de notre vie présente, énormément, parmi ceux de la fidélité catholique, bien sûr, énormément de vocations. Que ce soit des vocations religieuses ou sacerdotales. Quel est en effet l'intérêt de se préoccuper du monde aujourd'hui? Nous ne sommes plus en pays de chrétienté, il faut aller à l'essentiel. Alors, je vous le disais, notre Seigneur nous mène avec lui à la croix. Après cela, il y aura la résurrection, mais pour connaître la résurrection, il faut d'abord passer par la croix. Et notre Seigneur va donc nourrir notre âme sur la route pour aller jusqu'au pied du calvaire, jusqu'au calvaire même avec lui. Alors la communion est d'abord une union avec notre Seigneur crucifié, elle n'est pas d'abord une nourriture, elle n'est une nourriture que secondairement, elle refait nos forces, c'est ce que dit saint Thomas, elle refait nos forces qui ont été peut-être un peu épuisés dans les luttes de la vie ici-bas. D'où l'importance pour nous de la communion spirituelle. Car la communion spirituelle nous permet de nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il semble que nous n'ayons pas la nourriture. Mais en réalité, nous voyons que cette nourriture vient de notre enthousiasme à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui fait nos forces. Plus nous suivons Jésus-Christ, plus cela refait nos forces. Je me rappelle un ami de Saint Jean Bosco qui avait fait le pèlerinage de Chartres et qui disait à son grand-père « Ah, grand-père, cette année, ça a été facile, j'ai pu tout faire. » Et son grand-père de lui répondre « Mon petit, c'est probablement parce que le cœur y était. » Eh bien, ne nous lamentons pas lorsque Dieu ne permet pas que nous ayons la communion sacramentelle, car nous avons la communion spirituelle, et dans la communion spirituelle, nous avons l'essentiel qui, j'allais dire, est presque à portée de main, c'est-à-dire que nous pouvons nous unir à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons le suivre, car Jésus l'a dit à la Samaritaine, c'était l'évangile d'hier, d'avant-hier, il l'a dit à la Samaritaine, c'est en esprit et en vérité qu'on adore Dieu. Il semble que, du coup, n'ayant pas la communion sacramentelle, nous sommes privés des forces que celle-ci donne. Mais en réalité, si la communion donne des forces, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa grande sagesse, pour nous tenter, comme il a tenté les apôtres cette fois-ci, Dieu, dans sa grande sagesse, nous prive de la communion spirituelle, sacramentelle, quelquefois, pour mieux nous faire prendre conscience de la puissance de son action. Et alors, nous disons, un peu comme les apôtres, il y a quelques poissons, quelques pains d'orge, mais qu'est-ce-ci pour nourrir tant de monde? Alors, notre Seigneur ne leur répond pas directement, et il leur dit « Faites asseoir toute la foule ». Et il multiplie tellement les pains qu'il reste 12 corbeilles qu'il demande aux apôtres de recueillir. Vous remarquerez qu'il y en a 12, c'est-à-dire une pour chaque apôtre. Car les apôtres ont tous été inquiets, ils se sont tous demandé comment notre Seigneur ferait. Et ils voient que non seulement notre Seigneur a nourri les gens en abondance, mais en plus qu'il reste 12 corbeilles. C'est énorme, 12 corbeilles. Et chacun peut constater, des visus, même en palpé, puisqu'ils ont ramassé le pain dans la corbeille, chacun des apôtres peut constater la surabondance des dons de Jésus-Christ. Et vous remarquerez que seuls ceux qui ont suivi notre Seigneur de l'autre côté de la mer de Tibériade, c'est-à-dire qui ont quitté le monde, profitent de cette surabondance des dons de Jésus-Christ. Les autres ont eu du pain, peut-être, ceux qui sont restés chez eux, parce que Dieu nourrit les hommes plus encore qu'il nourrit les oiseaux. Les autres ont eu du pain, mais ils ont eu ce qu'il fallait. Peut-être même pas tous, il y en a certainement qui ont eu faim. À cette époque, comme toujours dans le monde. Seuls ceux qui ont suivi notre Seigneur ont reçu non seulement avec abondance, mais avec surabondance. Alors, ne nous décourageons pas dans la crise actuelle. Et il est temps de terminer ce sermon et de le résumer. Alors, premièrement, nous sommes dans une crise, c'est normal, c'est la condition du chrétien. Nous sommes les frères d'Isaac et Ismaël lutte contre nous. Deuxièmement, dans cette lutte, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous unissons à lui sur la croix. Et troisièmement, nous rejetons le monde et nous rejetons les choses du monde, et c'est très concret cela, nous rejetons les choses du monde, nous nous mettons en esprit au moins à l'écart, et pour cela, nous avons la communion spirituelle qui nous unit à notre Seigneur Et cette communion spirituelle nous donne une surabondance de grâce telle que il en reste 12 corbeilles, le chiffre parfait, la satiété des grandes corbeilles qui nourrissent notre âme. Suivons la très sainte Vierge. Elle était au pied de la croix et étant au pied de la croix, elle aussi a reçu avec surabondance les grâces de Dieu. Et c'est pourquoi elle est devenue trésorière de toutes les grâces, elle est devenue médiatrice de toutes les grâces, parce que elle était tellement unie à notre Seigneur au pied de la croix que Dieu lui a remis entre les mains tous les mérites que lui-même avait gagnés et il lui demande de les distribuer aux pauvres hommes. Et nous avons si peu de mérite que c'est en recourant à la Sainte Vierge qu'elle complétera et que nous aurons 12 corbeilles de grâce que la Sainte Vierge nous donnera. Bon courage à tous, que Dieu vous bénisse par les mains de Marie. Je vous souhaite une bonne fin de carême pour bien profiter de la Semaine Sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.